Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mouni.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
La Cour constitutionnelle du Mali a proclamé samedi 30 juin la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle. 17 personnes retenues pour le moment participeront au scrutin du 29 juin prochain. Et nous tenons à remercier nos invités qui se sont déplacés malgré la forte pluie. Ils sont tous là sur ce plateau. Monsieur Diakali Poudjougo, constitutionnaliste, professeur Mamadou Samake, politologue, Ibrahim Sango, président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. Je suis Fatmata Togola. Ce grand dialogue rentre dans le cadre du programme électoral de Studio Tamani en partenariat avec la Maison de la Presse.
Le grand dialogue.
Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Sur 30 dossiers des candidatures déposées, 17 ont été validés samedi dernier par la Cour constitutionnelle. Plutôt, nous allons ouvrir le débat avec le professeur Samake. Comment la situation évolue-t-elle selon vous depuis ce week-end?
Attention, vous avez dit validé, il faut rectifier. La validation n'intervient que
provisoirement. Oui,
le
4. Toutes nos excuses, oui.
Cette première séance de la Cour est une séance de constat. Est-ce que les dossiers déposés sont conformes aux dispositions de l'article 31 de la Constitution? Et subsidiairement de la loi électorale. Elle constate. Elle ne juge pas. Au regard des dossiers déposés, certainement au regard des motifs invoqués, il y a certains dossiers qui souffraient d'insuffisance. C'est pourquoi le législateur a donné la possibilité de faire appel. Donc ils avaient 24 heures. Bon, certainement que le chiffre de 17, le 4, juillet sera revu à la hausse. Voilà.
Alors, docteur Poudjougo, selon vous, comment la situation évolue-t-elle?
Je dirais que la situation suit son cours normal. La Cour a fait son travail et on attendra cette possibilité accordée aux candidats de compléter leur dossier, donc de répondre aux observations qui ont été faites par la Cour.
Et que pensez-vous du processus de validation des candidatures?
Je crois que le processus suit son cours normal aussi, parce que jusque-là, la Cour continue à dire le droit. En tout cas, je crois qu'on peut cette fois-ci faire confiance en cette Cour, jusqu'à preuve du contraire.
D'accord. Et vous, M. Sango?
Bon, comme l'ont dit, moi, c'est un processus normal auquel on est en train d'assister. Donc, on attend le 4 pour avoir la validation définitive des listes de candidature. Et là, on saura si c'est 17 ou 18 ou 19.
D'accord. Ouais. Alors, monsieur le docteur Poudjougo, pouvez-vous nous rappeler les critères d'éligibilité des candidats, s'il vous plaît?
Alors, les critères sont nombreux quand même, sauf si je venais avec la loi électorale devant moi. Mais on peut quand même citer quelques critères parmi lesquels il faut le soutien ou le parrainage d'élus de conseillers communaux. Donc, 5 au minimum. Donc, tout est dit dans la loi électorale. Et comme vous l'avez constaté, la Cour constitutionnelle a constaté que certaines candidatures ne remplissaient pas ces critères de parrainage ou de soutien, n'est-ce pas, par les élus communaux, les conseillers communaux et les élus, donc les députés dans les régions.
D'accord.
Donc, ça, c'est parmi les critères. Il y a aussi un critère qui n'a pas pu être rempli par certains candidats, c'est celui du paiement de la caution, n'est-ce pas, exigé par la loi électorale. Donc, il y a en tout cas beaucoup de critères. Je vais m'arrêter sur ces deux.
Et pouvez-vous nous parler un peu de la somme?
La somme, c'est 25 millions. Donc remboursable, donc en 50% pour les candidats qui auraient réussi à collecter un certain nombre de voix, un pourcentage de voix.
Mais n'est-elle pas énorme selon vous?
On ne peut pas dire que c'est énorme parce que nous avons d'autres États de la sous-région qui ont un montant, voire plus élevé. Donc je pense que c'est tout à fait normal.
Alors, M. Sangoka veut voir répondre au propos du docteur Kujugo.
Bon, le montant, ce n'est pas énorme parce que c'était un processus. Avant, c'était 10 millions, mais la loi a été relue et puis les critères ont changé. Le parrainage, c'est important. Il faut être parrainé par au moins 10 députés ou bien 5 conseillers nationaux par région. Donc ça, c'était un critère important. Et puis, il faut pouvoir réunir la somme de 25 millions. Pour quelqu'un qui veut être président de la République, qui aspire à être président de la République, il faut quand même qu'il ait une certaine surface. Et c'est pour aussi décourager toutes les candidatures. Vous savez, pour l'élection présidentielle, on a 17 candidatures pour le mois. Et le 4, ça va changer. Il y aura peut-être 18 ou 19. Et tout ça, c'est des charges par rapport aux documents électoraux qu'il faut revoir. Et puis, pour un pays pauvre comme le Mali, 20 personnes qui prétendent à être président de la République, c'est vraiment un peu trop. Donc, ça va amener aussi, sur le jour des élections, une dispersion des voix parce qu'avec 17 candidats, on est sûr qu'on ne va pas s'arrêter à un premier tour. Il y aura forcément un deuxième tour.
D'accord. Monsieur le professeur Samake, qu'avez-vous ajouté aux critères d'éligibilité?
Bon, enfin, ils ont déjà tout dit. Hein. Pour compléter mon collègue et jeune frère Podjougou, c'est 10 députés ou 45 conseillers au regard de 5 conseillers par région du Mali, bien entendu, à l'exception des deux nouvelles régions qui viennent d'être créées parce qu'elles ne sont pas encore circonscriptions administratives. Parce qu'il est bon de rappeler que le Mali n'a pas le carte électoral en tant que tel. Pour l'instant, c'est les circonscriptions administratives qui sont automatiquement transformées en circonscriptions électorales. Bon, n'ayant pas eu d'élection d'abord à Taoudeni et à Menaka, il est évident qu'ils n'apparaîtront pas, si vous voulez, sur la carte électorale en tant que circonscription électorale. Donc, ils sont exemptés au regard de la Cour et des dispositions, bien entendu, de la loi électorale, du parrainage, parce que leur électorat se trouve diffus dans la région de Tombouctou et de Gao, auxquelles régions elles appartenaient avant leur élection conformément à l'accord.
D'accord. Et pensez-vous également, pensez-vous comme M. Sanko concernant le deuxième tour, vu qu'il dit qu'il y a un renforcement au deuxième tour?
Deuxième tour, je ne saurais me substituer au peuple souverain du Mali. Parce que l'élection est une question de souveraineté. Bon, vous savez, moi, je suis un adepte de football. Hein. Nous sommes en plein de la Coupe du Monde. Plus le match dure, plus l'arbitre il est content.
D'accord. Et vous, docteur Pujogo?
Je vais répondre avec un peu d'humour à cette question parce que c'est comme si vous me demandez quelle est la religion de telle ou telle personne. C'est une relation de la personne avec Dieu. Oui. Donc c'est le peuple malien, c'est au peuple malien de dire ce qu'il pense. Est-ce qu'il y aura un deuxième tour ou non? C'est dans le cœur des Maliens. Chacun est libre de faire son choix. Donc, c'est une question assez difficile à répondre.
D'accord. Alors, M. Sango, les motifs pour lesquels certains candidats n'ont pas été retenus sont-ils valables selon vous?
Bon, dans la loi malienne, la constitution et toutes les lois organiques, les lois. Je dirais que la Cour constitutionnelle, les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours, les décisions de la Cour constitutionnelle. Et en la matière, ils ont statué une première fois publiquement et puis ils disent ils reçoivent les réclamations dans les 24 heures et ils vont revenir sur ceux qui semblent ne pas être dans le droit, selon eux. Donc le 4, ils vont revenir sur ça. Donc jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas dit le droit. Ils ont donné la possibilité aux candidats qui se sentent lésés de pouvoir faire recours. Et puis après le 4, ils vont proclamer le résultat définitif. Mais s'ils proclament le résultat définitif, c'est sans recours. Ça s'impose à tout le monde.
D'accord. Alors, professeur Samake, comment expliquez-vous cette situation? Est-ce un manque d'attention chez certains candidats? Parce que c'est quand même le présidentiel.
Bon, vous savez, nous sommes dans une république où tout le monde sent croire qu'il peut être président. C'est pourquoi pour 8 400 000 électeurs inscrits, Bon, un peu plus de 17 millions de Maliens. Bon, il y a tant de personnes qui ont quand même déposé leur dossier. Ceci mis dans cela, bah, j'y réponds un peu à votre question.
D'accord. Ok, monsieur Pojogo. Oui, monsieur Pojogo, pensez-vous exactement comme monsieur le professeur Samake? En répondant à la question du fait des explications concernant cette situation, vu que c'est la présidentielle, est-ce un manque d'attention de la part des candidats?
Ah non, je n'avais pas saisi votre question.
Ah, ok.
Ben, justement, c'est un manque d'attention.
Ok.
Parce qu'une bonne lecture de la Constitution et de la loi électorale aurait évité. Bon, pour les candidats d'envergure qui ne connaissent pas la loi, or, en tout cas, de mon point de vue, hein, le pouvoir, c'est la loi. Si vous ne connaissez pas la loi, qu'est-ce que vous allez exercer?
Il veut avoir le pouvoir.
Oui, monsieur. Alors,
maintenant que la question est bien précise, oui. Claire, je peux répondre. C'est assez grave parce que tout le monde peut entrer dans une erreur. On peut tous commettre des erreurs, mais il y a des erreurs qui sont assez flagrantes, surtout quand on cherche à être président d'un pays. Il faut faire attention à certains petits détails quand même qui sont très visibles, comme la signature des documents originaux, ainsi de suite. Donc malheureusement, on a constaté certaines irrégularités qui auraient dû être évitées, qui constituent aujourd'hui un travail inutile pour la Cour, une sorte d'encombrement de la Cour. Ce sont des erreurs tellement mineures que des candidats aux élections présidentielles devraient éviter.
D'accord. Et vous, M. Sango, qu'avez-vous à nous dire concernant ces petites erreurs mineures comme le docteur Pujogo vient de nous mentionner?
Bon, nous, en tant que société civile, on dit que ce n'est pas des erreurs mineures. Quand vous voulez avoir le pouvoir, exercer le pouvoir, devenir le premier citoyen d'un pays, vous devez vous munir de toutes les garanties possibles. Donc, ce n'est pas, à notre avis, il ne sied pas à quelqu'un qui veut être le premier responsable d'un pays d'ignorer la loi ou bien certaines parties de la loi. Maintenant, comme la Cour constitutionnelle a donné un temps de recours, on va attendre pour voir est-ce qu'ils ont vraiment ignoré la loi ou alors ils ne connaissent pas la loi. Donc ça, on pourra se prononcer là-dessus le soir du 4.
Et quelle alternative s'offre à eux?
Ben rien, si la Cour décide qu'ils sont écartés, ils sont écartés. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. On ne peut rien faire aussi.
D'accord. Voilà. Alors, professeur Samake, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la procédure à suivre concernant le recours?
Bon, ils avaient 24 heures à répondre au motif de rejet. C'est le principe du contradictoire. Comme il a dit, la Cour constitutionnelle, c'est la haute juridiction au Mali. Cette décision s'impose à la fois au pouvoir public et aux citoyens. Et ne sont susceptibles de recours. Donc, je crois qu'à partir du 4 avril, la Cour maintenant va statuer dans le fond.
Le 4 juillet.
Et proclamer définitivement qui sont habilités à concourir au suffrage pour gouverner ce qui reste de la République du Mali.
D'accord. Alors, docteur Pujogo, 24 heures, c'était le temps de recours qui s'offrait aux candidats dont les dossiers n'ont pas été validés. Et ça coïncidait avec un jour chômé le dimanche. Ce temps est-il suffisant? Est-il réellement possible de faire quelque chose un dimanche concernant cette situation?
Alors, effectivement, cette question était posée par beaucoup de Maliens. Dans les 24 heures données par la Cour, on est allé directement à tomber sur un dimanche qui, selon le Code du travail, donc c'est clair, c'est un jour non ouvrable. Et logiquement, la Cour doit donc leur accorder quelques heures de la journée du lundi. Donc ça, c'est mon point de vue. C'était pas suffisant parce que il n'est pas seulement question d'apporter les compléments de dossier à la Cour, mais aussi de se procurer de ces documents auprès de l'administration. Si vous avez, par exemple, un casier judiciaire à chercher ou quelque chose de ce genre, vous êtes obligé d'attendre un lundi. Et même là, c'est un peu insuffisant, mais si c'est la loi est la loi. Mais une chose est sûre, on ne saurait s'est limité à la journée du dimanche pour fermer donc la possibilité de compléter ces documents.
D'accord. Oui, professeur Samaki.
Bon, à mon avis, il faut interpréter ça en termes de jours francs. Bon, quand c'est les jours francs, généralement, les jours non travaillés ne rentrent pas en ligne des comptes. Bon, même par rapport au début de la campagne, hein, ben, si on veut être très très régalien, il y a des réserves. Donc pourquoi il n'y aurait pas ces mêmes réserves aussi par rapport aux déclarations de candidature? Bon, le dimanche peut être pris en compte au regard des circonstances quand même exceptionnelles que le pays connaît. Vous n'êtes pas sans savoir que les préfets sont en grève. Un représentant de l'État qui doit quand même attester de la validité de certains documents. Donc, je crois que la sagacité de neuf sages doivent les conduire dans le cas de l'apaisement social, ce qui est fondamentalement leur rôle au-delà du droit. Bon, avoir les réserves en tout cas et à prendre en compte ce dimanche qui était fermé.
D'accord. Alors, monsieur Sango, selon vous, vous auriez dû prendre en considération ce dimanche ou bien étendre sur la journée du lundi?
Bon, à mon avis, ils vont considérer le lundi, hein, parce que voilà les jours francs, c'est-à-dire que les jours non-travail, ils sont obligés d'en tenir compte. Et même si dans les discussions, il apparaît que les préfets sont en grève, je pense qu'il y a un service minimum qui peut faire que, bon, s'ils ont besoin d'actes, les actes peuvent être délivrés. Voilà.
D'accord. Même dans ces circonstances-là, vous parlez de, vu qu'ils sont en grève, le service minimum, est-ce possible d'avoir tous les documents, tous les dossiers possibles?
Bon, moi, je pense à ce niveau-là, on ne cherche pas tous les dossiers. Parce qu'avant de déposer les dossiers, il faut s'assurer qu'on connaît la loi, on connaît les principes qui doivent guider à faire en sorte qu'on soit candidat pour le poste de président de la République. On doit connaître la loi, on doit s'entourer de maximum de garanties avant de déposer ces dossiers. Je pense que le débat aujourd'hui, dans les médias, c'est surtout un cas qui a fourni un dossier. On dit qu'il n'est pas maire, ce dernier n'est pas maire, alors que ce maire a célébré des mariages, il est bien maire. Donc c'est ce seul cas, c'est des cas comme
mais
ça, comme des cas
bénins. Mais pourquoi il y a tant de soucis avec cela, qu'il n'est pas maire, or il a célébré des mariages?
Bon, je crois que c'est le candidat en cause, enfin le prétendant en cause est en train de réunir toutes les informations, toutes les preuves pour dire que celui-là est bien maire. Donc c'est des cas mineurs comme ça, mais pour les cas majeurs de casier judiciaire ou d'acte de naissance, moi, à mon sens, c'est pas le moment qu'on doit chercher ça. Quand on présente ce dossier, on doit s'assurer qu'on a les 10 députés ou les 5 conseillers nationaux. On doit s'assurer qu'on a son acte de naissance, son casier judiciaire. Donc, s'il y a des recours, c'est peut-être à cause des petites erreurs ou bien des fautes d'attention de la Cour constitutionnelle même qui peuvent dire que bon, cela n'est pas mal alors qu'il est mal. Donc, il faut apporter la preuve et c'est des corrections bénies, en mon sens, qui vont intervenir.
D'accord. Alors, professeur Samaké, la liste des candidats pourrait être revue à la hausse le 4 juillet. Mais selon vous, est-ce réellement possible?
Bien entendu, je vous ai dit, la Cour motive toujours ses rejets. Ils savent ce pourquoi leur candidature a été retoquée. S'ils peuvent, dans le délai imparti, les 24 heures, corriger les erreurs matérielles, parce que cette première, qu'on appelle abusivement validation, mais c'est une audience de constat des dossiers. Est-ce que les dossiers sont conformes aux prescriptions de la loi? L'article 31 de la Constitution qui dit les conditions pour être président de la République du Mali, mais qui est complété par la loi électorale. Parce que nulle part dans la Constitution, vous verrez les 25 millions. je crois que c'était 5 millions, ça a évolué à 10, aujourd'hui à 25. Je vous ai dit, pour un pays de 16 millions d'habitants, quand même 15 candidats, bon, ou 30 candidats, 25 millions c'est beaucoup, hein. Moi, ça fait environ 28 ans que je suis à l'université. Je sais pas si Poudjou, 25 millions, ça fait combien d'années de salaire?
Ça dépend des périodes aussi, de votre recrutement, parce que les salaires changent aussi.
Enfin, moi, j'ai dit, ça fait 25 ans.
Alors là...
Les salaires changent en fonction des temps.
Donc, 30 personnes en 25 millions, sans compter... ce que la campagne va coûter au-delà, bon, c'est bon pour la vitalité de notre démocratie.
D'accord. Ils sont déjà au nombre de 17. Donc, est-ce que vous pensez que c'est suffisant au lieu d'ajouter d'autres candidats aux élections?
Ben, c'est pas à moi de juger, c'est le peuple qui tranchera.
Et vous, M. Sango?
Bon, le peuple va se prononcer, mais ça va être une dispersion de voix. Parce que si c'est deux ou trois candidats, on sera sûr que les gens vont se concentrer sur les deux ou trois candidats. Mais avec 17 candidats, chaque candidat aura quand même des voix que le peuple lui accordera. Nous le disons de par notre expérience dans le cadre de l'observation des élections.
D'accord. Et vous, monsieur docteur Poujougou?
Je vais réagir un peu à ce que mon doyen a dit.
Allez-y, oui.
Je pense que le changement du montant exigé, donc la caution, s'explique aussi par les changements, parce qu'il y a eu plusieurs générations, les temps ont changé, les salaires ont changé, donc je pense que c'est raisonnable, cette caution, et surtout lorsque nous la comparons à celle des autres États voisins. Ça c'est un. Donc pour moi, il n'y a rien d'anormal.
D'accord. Voilà. Et concernant le nombre de candidats, vu qu'ils sont déjà 17 qui ont été, dont les dossiers ont été validés, pensez-vous qu'il faut ajouter d'autres candidats ou c'est-il suffisant?
Ce n'est pas une question d'ajouter ou de diminuer. Lorsque les candidatures sont conformes, lorsqu'elles respectent la loi, même si c'est 1000 candidats, c'est un exercice démocratique. Pourquoi pas? Parce que c'est... Selon la Constitution, c'est un droit constitutionnel. C'est d'ailleurs un droit de l'homme, donc un droit humain, pour chaque Malien de pouvoir participer à la gestion des affaires publiques. Si on avait 1 million de Maliens qui ont les compétences et qui veulent devenir président et qui ont un bon projet de société, pourquoi pas? Ça, c'est mon point de vue. C'est une question de démocratie.
D'accord. Et vous, professeur Samake?
Mais j'ai dit que c'est l'expression de la vitalité de notre démocratie. Seulement, la question que je me pose, en tant que sociologue, comment ils font pour avoir les 25 millions et puis animer la campagne électorale, quoi?
Et selon vous, dans ce cas, doit-on limiter le nombre de candidats au Mali?
De mon point de vue, oui.
Pourquoi?
Il faut réviser la Constitution, même le nombre de partis. Il y a aujourd'hui 195 partis, mais un parti politique, c'est quoi? C'est d'abord un projet autour duquel des hommes et des femmes se réunissent, qui transforment en programme. Mais aujourd'hui, on est à quoi? Boabla, Boantabla. Ça fait qu'il y a des blocs opératoires à l'hôpital. Ça fait que j'ai des amphis. Ça fait que, en fait, j'ai des étudiants qui ont accès à Internet, qui ont des ordinateurs et autres là. Le débat devrait être autour de ça. C'est ça la charte des partis. C'est ça aussi l'article 28 de la Constitution. C'est pourquoi, dans mon propos, j'ai dit ce qui reste de la République du Mali.
Oui.
Parce que je le ressens de tout mon cœur. Ce qui la reste. L'article 28 dit quoi? Au premier chef, c'est les partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage. Mais dans le respect de quoi? De l'unité nationale. Est-ce que le débat est autour de l'unité nationale? Est-ce que le débat autour de la sauvegarde, de l'intégrité du territoire, est-ce que le débat autour des questions de sécurité, est-ce que le débat autour d'une meilleure distribution des services sociaux de base, on va le 29, aujourd'hui nous sommes le 2, nous sommes à 26 jours, chrono. Que je sache la santé. l'administration territoriale. Ça, c'est des faits sociaux. J'en passe.
D'accord. Alors, M. Sango, qu'avez-vous à ajouter ou à répondre aux propos du professeur Samake concernant le droit de limitation des candidatures au Mali?
Bon, je n'ai pas de commentaire particulier, le droit de limitation. En fait, c'est un constat qui est là. Il n'y a pas 195 projets de société. Ça, c'est clair pour tout le monde. Si vous voyez les grandes démocraties, il n'y a que deux ou trois grands partis. Il y a des petits partis, mais en tout, la scène politique est animée par maximum une vingtaine de partis politiques. Les pays qu'on regarde, dont on s'inspire pour parler de démocratie. Mais pire que les 195 partis politiques, il y a plus de 300 mouvements de soutien. Et aujourd'hui, le débat, comme il a dit, c'est focalisé sur deux points seulement. Bouakabla, Bouakata, Bouakabla, Bouakata. Donc, le débat même autour de la loi électorale, de la faisabilité des élections, de la sauvegarde de notre République, et du fait que les Maliens puissent s'engager, puissent se donner la main pour avoir un avenir radieux, ces débats sont occultés. Aujourd'hui, c'est un débat de personnes, c'est un débat qui ne cultive pas la démocratie. Nous l'avons dit à un moment, quand on a fait un rapport d'alerte pour dire, à 6 mois des élections, il ne faut pas changer la loi électorale. Le protocole additionnel de la CEDEAO est contre cela, et la déclaration de la francophonie est contre cela, et la charte africaine est contre cela. Toutes les grandes décisions sont contre cela. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on assiste au fait que des cartes d'électeurs ont été confectionnées tardivement, n'arrivent pas à être distribuées sur l'ensemble du territoire, parce que les préfets sont en grève. Les préfets ont pris en otage, si on peut le dire, le processus électoral. Les hommes de santé sont en grève, les préfets sont en grève. Et on s'achemine vers des élections le 29 juillet, avec beaucoup de problèmes.
Et pensez-vous que les élections pourront être maintenues pour le 29 juillet dans ces circonstances-là?
Aujourd'hui, on ne peut pas parler de report, parce que nous, l'organisation de la société civile, ont beaucoup alerté par rapport au processus électoral, aux élections générales de 2018, la présidentielle et les législatives. On ne doit pas attendre la dernière minute pour faire face aux élections. Et non seulement l'opposition et la majorité se sont tous donné la main pour qu'on aille vers cet état de fait. À 6 mois des élections, on ne change pas les textes. Tout le monde est d'accord avec ça. Pourquoi attendre 6 mois pour changer les textes? Et c'est en changeant les textes qu'on a introduit la notion de cadre d'électeur qui a été confectionnée à la dernière minute, qui est venue avec beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, les problèmes de distribution se posent. Il faut assumer et s'asseoir pour parler. Mais dans tous les cas, on savait depuis 2013, depuis le 12 août 2013, que le 29 juillet 2018, il y aurait à avoir élection et pouvoir se préparer en conséquence.
D'accord. Alors, docteur Opodjogo, oui.
Je voudrais revenir un peu sur la question de limitation du nombre de candidatures. Vous avez parlé des grandes démocraties en se comparant ou en faisant allusion à certains États. Pour moi, ces États ne sont pas des grandes démocraties dans le sens original ou original du terme. Parce que la démocratie, quand on revient à ses origines, ce sont les Grecs. Et les Grecs ne pouvaient pas imaginer une limitation du nombre de candidatures lorsqu'il est question de gérer les affaires publiques. C'était la possibilité pour chacun de participer aux affaires, à la gestion des affaires publiques. Donc, si on revient au sens originel de la démocratie, pour moi, la limitation des candidatures est contraire à la démocratie. Et quand on prend l'élection, donc ici, le droit d'éligibilité comme droit de l'homme, ça reste un droit de citoyen. Lorsqu'il a un projet, j'ai beaucoup insisté, c'est le projet de société. Ce qui compte ici, ce sont les compétences et le projet de société. Une fois que cela est là, je crois qu'ils ont la liberté de compétir et on souhaite qu'il y ait plus de candidatures si c'est pour le bien. Et là, je pense qu'on ne sera pas enfermé dans une discussion de la navette du tisserand Bouakabla, Bouatabla ou ni Bouayabla, Djonfabata. Si on est nombreux, alors je crois qu'il y a une sorte de bipolarisation. C'est assez dommage. Si on avait d'autres candidats aussi compétents qui ont de si bons projets, de plus bons projets de société, je crois que ce discours de Bouakabla ou Ta n'allait pas exister. Je crois qu'il est temps de donner aux autres chevaux la possibilité de se placer sur le terrain et de courir avec les autres.
D'accord. Alors, Monsieur Sango, vous avez dit qu'il n'y a pas moyen de parler de report dans cette situation, mais est-ce que la date du 29 juillet est-elle tenable?
Tout le monde, le gouvernement a fixé, les partis politiques sont d'accord, il y a eu la loi qui a été relue, tout le monde est d'accord, sauf cas de risque majeur. Nous, on pense que les gens sont en train de se préparer à aller aux élections. Et pour le moment, les deux tiers du territoire ne sont pas occupés pour dire qu'on va reporter les élections. Et on est en train de se préparer. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, ce qu'on est en train de faire, c'est de constituer un groupe avec d'autres organisations de la société civile, nous en tant qu'observatoire, avec le groupe pivot de la citoyenneté de la femme, le Conseil national de la jeunesse et puis les volontaires du Mali, pour mettre en place un système d'observation des élections. Nous aurons 84 observateurs à long terme qu'on va déployer sur l'ensemble du territoire. Nous aurons aussi 1980 observateurs qu'on va déployer le 29 juillet et le 12 août s'il y a deuxième tour pour observer les élections. Mais avant, d'ici le 29 juillet, on va observer les élections et puis faire un rapport d'observation par rapport à ce qu'on aura vu. Mais le plus qui sera là en tant qu'observatoire, c'est l'expérience qu'on a mise en place en 2013 avec le pôle d'observation citoyenne électorale où la société civile malienne va jouer en temps réel sur les élections pour pouvoir corriger les dysfonctionnements, pour que les citoyens maliens puissent voter dans la paix, dans la tranquillité et en toute quiétude. C'est ça le rôle de la société civile. Et maintenant, par rapport au report ou non-report, nous ne sommes pas dans... Il y a un ministère qui est dédié à l'organisation des élections. Il y a la CENI qui est chargée du suivi. Et donc, nous, en tant qu'organisation, on accompagne. Et notre vœu le plus cher, c'est que les populations maliennes puissent voter librement, calmement, dans la paix, dans la sécurité. Merci.
D'accord. Alors, professeur Samake, pensez-vous que la date du 29 est tenable, vu le contexte actuel avec ces différentes attaques et la grève des administrateurs civils? Et il y a certaines localités dans lesquelles on n'a pas acheminé les cartes d'électeurs et ils n'arrivent même pas à récupérer leurs cartes.
Bon, je ne vois pas d'alternative aux élections. Il a parlé par rapport à la loi électorale du protocole additionnel de la CEDEAO et même de l'Union africaine, un sens supérieur. Bon, ils ont dit 6 mois avant l'élection, on ne peut pas réviser, sauf consensus. Que je sache, par rapport à la présente révision, c'était le cas, sauf que, exception, c'est la majorité qui a boycotté justement la commission qui était chargée de relire la loi électorale. Bon, si nous étions dans un contexte où ce consensus prévalait, mais ne nous voilons pas la face.
Et pourquoi pensez-vous que c'est...
Moi, je suis politologue, vous m'avez présenté comme politologue, j'aime parler les faits. Nous avons vu Ante Abana en son nom Ante Mwalame, est-ce que ça c'est pas Bouakabla, Bouantabla? Alors, face à une telle fracture, la Constitution ne prévoyant pas un vide, quelle alternative tu as au 29? Est-ce qu'ils pourront s'entendre? Est-ce qu'il n'y a pas de risque d'instabilité institutionnelle? Bon, je n'ai pas une boule de cristal, hein, mais je sais que les Togolais ont ça.
Alors, monsieur, docteur Opodjogo, qu'avez-vous à répondre au propos du professeur Samake?
Alors, je vais aller dans la même ligne, mais en ajoutant quelque chose. Je ne vois pas également d'alternative. Il faut aller aux élections. C'est vrai, il ne faut pas se voiler la face non plus. Et j'ai dit tout à l'heure que la Cour constitutionnelle, cette fois-ci, a dit le droit. Et nous l'avons vu lorsqu'il était question de Ante Abana, la Cour n'avait pas dit le droit. Voilà pourquoi il y a eu Ante Abana. C'était sur la question sécuritaire, la question de l'atteinte à l'intégrité territoriale. La Cour avait manqué d'audace de dire clairement qu'il y avait une telle atteinte. Voilà pourquoi la rue a dit le droit. Je mets bien entre guillemets, la rue a dit le droit. Et aujourd'hui, cette question est encore d'actualité. Mais vous voyez qu'on parle très peu de la situation sécuritaire. Parce qu'effectivement, il n'y a pas une autre alternative. Si nous raisonnons en termes juridiques ou en termes de textes, Est-ce qu'on peut aller aux élections avec la situation actuelle? La réponse est non.
Comme vous
parce qu'on
ne
pourra pas assurer,
okay.
parce qu'on n'a pas, on n'est pas capable d'organiser des élections justes, c'est clair. Des élections libres surtout, lorsqu'on n'est pas en sécurité. Vous n'allez pas me dire que le citoyen qui est à Gao, Tombouctou, Mopti est aujourd'hui libre. Il pense à comment il va survivre. Aujourd'hui à Mopti, le peuple il va se poser des questions sur comment il retrouvera ses bêtes, ses vaches. Le Dogon, il pense à comment il va cultiver. Donc, il y a toutes ces questions sécuritaires qui sont là. Donc, mais malheureusement ou heureusement, on n'a pas d'autre choix que d'aller aux élections. Je vais caricaturer, si vous me permettez, cette situation avec un dicton Dogon, de la chasse Dogon, qui parle de l'œuf d'un oiseau imaginaire qu'on appelle Djigidjarata. Ça veut dire que c'est l'œuf d'un oiseau, si jamais vous le rencontrez, gare à vous. Parce que si vous prenez l'œuf, c'est votre maman qui va mourir. Si vous le laissez, c'est votre papa qui va mourir. Alors, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Donc, nous sommes obligés de choisir entre le vide institutionnel, voire même du pouvoir politique qui nous amènera à un chaos et des élections qui ne seraient pas vraiment justes, équitables, transparentes et libres, mais on n'a pas d'autre alternative, c'est une exigence.
Et au cas où elles ne se tiendraient pas, qu'est-ce qui va se passer selon vous?
Elles sont obligées de se tenir, et ça, même les Maliens, les plus faux, entre guillemets, sont d'accord avec cela. Si nous n'irons pas aux élections, ça sera le chaos. Personne ne gagne. Là, ça ne sera plus une histoire de Boaka Bla ou Boaka Ta. Ça sera une manière, une question de survie ou de disparition de chacun de nous, à tout moment, ou de notre chère patrie. C'est que nous ne pouvons pas et nous n'osons même pas rêver. Donc vivement, les élections le 29 juillet, même si elles ne seraient pas régulières, justes, libres et transparentes comme ça se doit.
D'accord. Alors, M. Sango, qu'avez-vous à répondre au propos du docteur Opojougo qui nous dit qu'on n'a pas vraiment le choix, mais elles ne seront pas transparentes et équitables?
Bon, je ne dirais pas aujourd'hui en tant qu'observateur que les élections ne seront pas transparentes tant que les élections ne sont pas tenues. Mais je pense que c'est des scénarios. C'est-à-dire, en tant qu'analyste, il faut voir les élections, on fait toujours des scénarios. Tout se passe trop bien, ou bien ça ne se passe pas bien, il y a des contestations mineures, des contestations majeures. Donc, c'est des scénarios qu'on dessine pour la tenue des élections. Maintenant, avant la tenue des élections, la période préélectorale, il y a quand même des situations qu'on analyse. Il y a l'environnement qu'on analyse, et puis on voit, est-ce que tout le monde, est-ce qu'il y a l'inclusivité? L'inclusivité par rapport à l'organisation des élections. On a vu que le consensus a fait que l'opposition et la majorité ont adopté la loi électorale. L'opposition a refusé de voter pour, mais s'est abstenue, mais n'a pas voté contre. Donc ça, c'est le consensus qui a venu les partis politiques à pouvoir voter une loi électorale à moins de 6 mois des élections. Les cartes d'élection ont été confectionnées et l'administration territoriale est en train d'organiser les élections, acheminer les cartes et faire la sensibilisation. Ce qui manque, à notre avis, en tant qu'organisation de la société civile, c'est que les organisations de la société civile spécialisées sur les questions électorales ne sont pas impliquées dans l'information, l'éducation et la sensibilisation des citoyens. Il y a eu un appel.
Et pourquoi cela?
On ne sait pas. Il y a eu un appel à fond par rapport au PNUD, le PNUD qui est venu accompagner le gouvernement du Mali, qui a dédié un fonds pour l'accompagnement des élections par les organisations de la société civile. Il y a eu des appels à agir. Il y a les organisations de la société civile malienne qui ont compété à ça, mais jusqu'à présent, on ne les appelle pas. Donc, et l'implication des organisations de la société civile par rapport à l'information, l'éducation et la sensibilisation électorale font défaut. Aujourd'hui, ce n'est pas tous les Maliens qui connaissent la loi électorale de 2018. Non seulement la loi électorale de 2018, mais aussi la loi électorale de 2016, qui n'a pas servi de cadre aux élections au Mali depuis que cette loi a été votée. Donc, il y a une insuffisance par rapport à la connaissance même des règles. Des règles qui doivent guider les élections. Donc l'accompagnement de la société civile aujourd'hui pose problème et ça pose le problème de l'inclusivité quand l'administration territoriale seulement organise et n'implique personne. Donc ça pose des problèmes par rapport à la régularité. Mais pour la transparence et tout, on va voir, on va observer on va faire notre rapport d'observation, on va publier notre rapport d'observation et voir progressivement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour que dans le futur, on puisse le corriger.
D'accord. Alors, professeur Samake, trouvez-vous cela normal que les observateurs de la société civile ne soient pas impliqués dans ce processus?
Enfin, la loi ouvre la possibilité à tout le monde d'être acteur du processus. Bon, Sango, en tant que président de l'observateur, prendre les moyens mis à disposition. Parce que le gouvernement doit aussi mettre les moyens à disposition des organisations de la société civile pour l'accompagner dans l'effort de sensibilisation. Mais ce que je voudrais dire, il faudra quand même que les Maliennes et les Maliens ouvrent les yeux. Hier, au cours du journal télévisé, le ministre des Finances a dit que le premier tour des présidentielles ont été essentiellement supportés par le budget national. Ça voudra dire que l'élan de solidarité qui nous a accompagnés en 2013 est en train de s'estomper. Donc, si nous n'avons pas le sursaut national, croyant que d'autres viendront faire le Mali à notre place, mais n'oublions pas que nous avons une situation géostratégique qui fait que nous sommes en face de cette nation. Tout ce qui nous arrive, de façon collatérale, de fait déjà nous sommes sous tutelle, mais de droit nous le serons, si un consensus national ne prévaut pas.
D'accord. Alors, docteur Pojogo, la situation du Mali est aujourd'hui très critique à certains niveaux, à plusieurs niveaux, disons, selon certains observateurs. Selon vous, qu'est-ce qui va changer après ces élections-là?
Alors, c'est une grande question. J'essaie d'éviter de parler de certaines choses parce que ce n'est pas du pessimisme, mais il faut reconnaître qu'on a le droit de se poser aujourd'hui si nous sommes devant une élection de sortie de crise ou une élection qui nous ouvre la porte vers une autre crise. Je ne suis ni de l'opposition, ni du pouvoir. Et en tant qu'enseignant, donc juriste, j'ai la liberté de dire ce que je pense. Et il y a, parmi les problèmes que nous avons, celui de l'insécurité. Et ça, c'est une grande responsabilité. Les plus hauts responsables ont failli à leur responsabilité, à leur obligation. Donc, où est la responsabilité lorsqu'il s'agit de la sécurité, de la sûreté de l'État? Et je crois que jusque-là, nous n'avons pas eu de leaders dignes de ces noms qui ont pris à bras le corps ce problème pour sortir de l'insécurité. Et je crois que si on avait eu des jeunes ou même des vieux, pourquoi pas, qui avaient mis fin au problème de l'insécurité au nord, on ne serait pas là. Et malheureusement, nous sommes déçus, nous sommes vraiment étonnés de voir que les espoirs que nous avions n'ont pas produit les résultats escomptés.
D'accord. Oui, professeur Samake, vous voulez réagir par rapport à cela?
Bon, ce que je voudrais dire, les problèmes de sécurité sont des problèmes globaux. Au 13e arrondissement, on a fait des attentats à Paris. En 2001, c'est le Pentagone qui a été frappé. Vous savez, nous sommes dans un système asymétrique où vraiment parti politique, État, qui a la responsabilité première, tout le monde doit composer. Parce que au terme du titre premier de notre Constitution, nous sommes tous des soldats de la République.
D'accord. Alors, Monsieur Sango, avant de boucler ce débat, un mot de la fin?
Et justement pour dire que tout le monde doit mettre le Mali au-dessus de tout, c'est ça le mot de la fin. Sinon, l'administration a vu son mandat prolongé. L'administration restera pendant 50 ans encore au Mali si les Maliens ne prennent pas leur destinée en main.
D'accord. Merci beaucoup. Et cela met fin à ce débat qui était sur le processus électoral à la présidentielle. Et je vous rappelle que le Grand Dialogue de ce soir rentre dans le cadre du programme électoral de Studio Tamani en partenariat avec la Maison de la Presse. Un grand merci à nos invités qui ont fait le déplacement sous cette forte pluie. Docteur Diakari Pojogo, constitutionnaliste, professeur Mamadou Samake, politologue, Ibrahima Sango, président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. C'est une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Gagne Conté. La régie vidéo est assurée par Noum Djiré. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Haloud Mandé.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.